Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza. Bienvenue aussi Léa, Arthur et Stéphanie.
Hey, bonjour, bienvenue Hans.
Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui donc, des participants comme tous les jours. Cette fois-ci, c'est la délégation luxembourgeoise. Ils seront deux ou trois, je ne sais pas encore. Ça, on va le découvrir très vite. Et qui sont à Tunis. Et donc, ça a été un peu mouvementé aujourd'hui là-bas. Donc, on va voir ce qu'ils en pensent. Et puis, ça sera suivi par un entretien avec Julie Jaroszewski, qui a participé à la flottille pour Gaza en 2010. Voilà. Donc, on essaye d'appeler la délégation luxembourgeoise.
Allô?
Oui, allô, bonjour, c'est Hans ici, de Radio Free Gaza. Je parle avec la délégation luxembourgeoise.
Oui, exactement. nous sommes deux, moi, Abdesamad et Laurent. Il est à côté aussi.
Ok, ben, bienvenue. C'est la première fois que vous passez en direct sur antenne. Vous vous trouvez à Tunis?
Oui, oui, nous sommes à Tunis, oui.
Ouais. Et comment ça se passe là pour l'instant? Vous avez été bien accueillis. Ça a été aussi un peu mouvementé aujourd'hui là-bas?
Bah, franchement, on va bien. Bien sûr, l'attaque du drone contre la navire Family nous a choqués. Moi, je n'ai pas bien dormi en vérité, mais ça ne nous a pas intimidés. Au contraire, ça renforce notre conviction de notre détermination à continuer. On est là pour une mission humanitaire, pacifique, et on ira jusqu'au bout pour briser le blocus et apporter l'aide au peuple palestinien.
Ok. Et comment c'est l'atmosphère à Tunis? Est-ce que vous êtes bien accueillis? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont attendu? Vous êtes bien logés, tout ça?
Bah, l'accueil à Tunis, en tout cas, a été magnifique, vraiment chaleureux. C'est marquant, surtout quand on compare avec ce qu'on a vécu en Égypte. Moi, j'étais en Égypte pour la marche de Gaza. Là-bas, on se sentait surveillé sous une pression énorme, pas en sécurité, pour rien du tout. En Tunisie, c'est tout le contraire. Tu bouges librement, tu cries « Free Palestine » et les gens te soutiennent. C'est incroyable et ça fait vraiment du bien. Peut-être que je passe à Nora.
Oui.
Et du coup, qu'il pense pour ce sujet-là, Tunis, voilà.
Oui, en effet, je me sens aussi très accueillie, très soutenue, par les gens, le peuple tunisien. On sent effectivement le soutien en marchant dans les rues, en étant au port où on a aussi accueilli nos camarades qui sont venus de l'Espagne. Et oui, les Tunisiens sont en effet ou semblent en effet être avec nous et ça donne chaud au cœur et ça aide à rester déterminé.
Oui. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous faites des entraînements ou des formations? Qu'est-ce que vous faites?
En effet, on a commencé nos entraînements il y a une semaine. On a fait des formations sur la non-violence. On a vraiment beaucoup travaillé sur cela. parce que comme disait Samy, on est un mouvement pacifique, donc c'est très très important qu'on puisse rester pacifique et non violent dans toutes circonstances. On a parlé de santé mentale, on a parlé de, enfin, on a été formé au niveau média, on a même fait un scénario de kidnapping, ce qui était assez utile à mon avis. Donc on est formé, on est prêt, je dirais. Maintenant, après l'attaque de hier, c'est vrai qu'on est un peu en stand-by. Donc on a assisté à une conférence de presse de ce matin, donc de ceux qui décident, du steering committee. Mais c'est vrai qu'on est un peu en stand-by en ce moment. On a encore une réunion aujourd'hui, donc en effet dans une heure. Et on attend un peu les informations.
Oui, bonjour, c'est Stéphanie. Oui, c'est ça, c'était une question suivante, c'est qu'à cette heure-ci, puisqu'on est en direct à la radio, et à ce moment-ci, vous êtes toujours supposé prendre le départ demain, c'est ça?
Oui, normalement, c'est prévu pour demain, mais à cause de l'attaque de la Nader Family, on ne sait pas trop maintenant.
Oui, évidemment. Ouais. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts avec vos proches? Parce que je sais que pour certains participants, les familles et les proches, c'était un peu la panique, évidemment. Vous avez pu avoir des contacts avec vos proches et les rassurer?
Oui, bien sûr. On avait des contacts. C'est normal de parler avec eux, d'essayer de les calmer. On se sent fort en vérité, on a une solidarité aussi de tout le monde et donc je crois que tout va bien jusqu'à maintenant.
Alors je vais vous dire ce que j'ai dit, je pense tous les participants et toutes les participantes à qui nous avons parlé jusqu'ici en live, c'est-à-dire que vous avez un très très grand soutien populaire un peu partout, en Belgique, au Luxembourg et dans vraiment beaucoup 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 d'autres pays et dans beaucoup d'autres continents, et ça c'est extrêmement important et ça fait très chaud au cœur à voir aussi, et voilà, et ça, j'espère que ça va vous accompagner sur le bateau.
Ah, ça, c'est magnifique d'entendre ça. Oui, c'est sûr.
Merci beaucoup. En effet, ça motive encore plus parce que c'est tout ce qu'on veut vraiment faire. Donc déjà, All Eyes on Gaza, ça, c'est sûr. Ensuite, Rise Up, se solidariser, c'est important. Donc merci pour le soutien.
Merci à vous.
Est-ce que vous avez encore un message pour les gens qui vous écoutent et qui nous écoutent au Luxembourg et en Belgique?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai un message. Je me pose la question, pourquoi est-ce que nous, simples citoyens, on doit faire ce que normalement les gouvernements devraient faire? Si eux choisissent de rester silencieux, alors c'est au peuple de leur rappeler nos valeurs humaines. Je m'adresse surtout au peuple luxembourgeois et belge. Et je dis, levez-vous, protégez vos citoyens qui ont choisi d'aider un peuple affamé et massacré. C'est vous l'avenir, c'est avec votre soutien qu'on est fort. Ne restez pas immobiles, soyez avec nous contre l'injustice. Et je vous remercie. Merci à tous. Et toi, tu veux rajouter quelque chose?
Non, merci. J'avoue, je suis avec Samy dans ça. Je voudrais vraiment qu'on garde nos yeux sur Gaza, qu'on se concentre sur ce qui est capable, qu'est-ce que Israël peut faire. Ce qui s'est passé hier, c'était drop in the ocean. Le peuple palestinien, il souffre depuis tellement longtemps, énormément. Donc, s'il vous plaît, continuez à parler de Gaza, des Palestiniens, de mettre de la pression sur les gouvernements. Il faut vraiment qu'on continue à se bouger, à être plus fort encore pour pouvoir cesser ce génocide et viser ces défauts.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup. Nous allons certainement encore parler dans les jours qui viennent. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous sommes avec vous. Et à très bientôt, j'espère.
Ah, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Oui, au revoir. Voilà, donc c'était Nora et Abdou.
C'est ça.
Ou Sami, enfin il a plusieurs noms, qui nous ont discuté de Tunis. Maintenant, on va écouter l'entretien avec Julie Jaroszewski, qui a donc participé à la flottille pour Gaza en 2010.
D'être ici, hein.
Bonjour Julie.
Bonjour Stéphanie.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, s'il te plaît?
Oui, je suis Julie Jaroszewski, je suis travailleuse des arts, je fais du théâtre et de la musique et je suis militante aussi.
Très bien. Alors, lorsque je t'ai contactée en tant qu'ex-participante à une flottille précédente dont tu vas nous parler, de ton expérience, tu m'as dit oui tout de suite pour participer à l'émission de radio. Et tu m'as aussi dit très vite ce dont tu aimerais parler, ce qui te semblait essentiel à dire aujourd'hui par rapport à ton expérience de ce moment-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, ben moi en tout cas, j'ai accompagné la flottille jusqu'à donc la flottille de 2010 du Mavi Marmara qui a été attaquée, où il y a eu 9 morts à bord et puis 2 personnes ensuite ont succombé à leurs blessures. Moi, je suis descendue en fait à Antalya parce que j'avais peur et que je ne gérais plus mon stress. Donc évidemment, je ne peux pas témoigner de ce qui s'est passé à bord du bateau. Je peux témoigner de comment je m'y suis retrouvée et de ce qui a produit cet événement militant de grande ampleur. Mais surtout, je peux témoigner de la réaction de la presse et du spectacle médiatique, vu que j'étais la seule accessible pendant quelques jours alors que les autres étaient déportés en prison à Ashdod. Oui, j'ai une réflexion en tout cas d'un point de vue militant sur la question de la démocratisation des moyens de production, de la presse, parce que j'ai pu constater à quel point il était impossible de passer un propos politique, comment directement tout propos était déformé à des fins humanitaires et spectaculaires. Je trouve ça absolument problématique parce que des télévisions comme la RTBF sont des télévisions publiques, nous les finançons avec nos impôts et donc je pense que nous devrions non seulement avoir un droit de parole sans être coupés et montés de manière arbitraire sur ces médias, mais aussi un droit de faire, de produire l'information, voilà.
D'accord. Et lorsque tu vois, parce qu'évidemment c'était en 2010, donc il y a 15 ans de différence, les choses évoluent sur certains points, mais est-ce que tu as l'impression que la même chose est en train de se reproduire aujourd'hui avec soit cette flottille-ci, soit les précédentes qu'on a pu voir ces derniers mois? Est-ce que tu as l'impression que la presse fonctionne de la même façon?
Oui, 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 non, il y a absolument, de toute façon, il n'y a pas eu de changement structurel, donc c'est une presse qui fonctionne au spectacle, à l'événement, à l'événementiel, et je ne pense pas que des propos politiques puissent encore émerger dans la presse telle qu'elle s'organise pour le moment. J'imagine que depuis des semaines, des militants envoient des communiqués de presse aux rédactions. Bon, là, ils commencent à parler timidement peut-être d'une flottille. Je veux dire, les informations, ils les ont. Donc, c'est toujours cette vieille question de la pseudo-objectivité. Il y a une phrase de Godard que j'aime beaucoup qui dit « L'objectivité, c'est 15 minutes pour Hitler, 15 minutes pour les Juifs ».
Ah oui.
Et la presse se veut objective, mais objective dans quel contexte? Enfin, je veux dire, là, il y a un génocide, il y a des militants qui, s'appuyant sur le droit international, sont en train de prendre la mer au péril de leur vie, qui sont face à une armée qui commet un génocide depuis 2 ans, qui les menace militairement. Nous avons derrière nous des interventions militaires face à des citoyens, comme au moment du Mavi Marmara, qui s'est soldé par 11 morts en mer. On s'appuie sur le droit international. Je veux dire, il n'y a pas question d'objectivité, il est hors de question à certains moments de ramener ça à des faits objectifs. Les faits objectifs, ils sont là. C'est à eux aussi de se positionner ou alors à assumer pleinement leur complicité.
D'accord. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, la Global Summit Flotilla et la délégation belge et toutes les délégations qui participent à cette flotille s'appuient beaucoup sur les réseaux sociaux pour porter leur voix, leurs images, leur storytelling, en se disant qu'effectivement, le travail que la presse ne fait pas, que la presse mainstream ne fait pas ou fait très peu ou fait très mal, ils peuvent le faire eux-mêmes. Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce qu'évidemment, les réseaux sociaux étaient un peu moins fortement utilisés il y a 15 ans, mais ils étaient déjà commençaient déjà à être présents, je pense. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que ça te paraît une bonne option ou bien?
De toute façon, pour le moment, comme nous n'avons pas de télévision et de radio publique digne de ce nom, nous n'avons pas vraiment le choix. Donc, évidemment, moi-même, les informations intéressantes, enfin les informations véritablement objectives qui m'arrivent sur la situation de Gaza ou sur la flottille, moi, c'est aussi depuis le réseau militant, depuis les réseaux sociaux que je les pioche. Par contre, je pense que nous, en tant que militants, nous devons absolument réfléchir et ne pas penser que c'est une finalité ou que ça puisse être un espace démocratique. Ce n'est pas un espace démocratique, c'est un espace qui appartient à des grands groupes. Nous ne maîtrisons pas l'algorithme et par ailleurs, alors arrêtons de payer nos impôts parce que la télévision publique belge, nous la finançons. Donc si nous la finançons, nous avons un droit de regard sur la manière dont elle détient justement ce storytelling, mais aussi nous avons un droit de regard sur la manière dont elle se fait. Et nous sommes absolument légitimes pour la faire. Je voudrais, parce que ça paraît un rêve comme ça lointain, mais il y a plein de pays en Amérique latine qui ont mené des expériences de démocratisation du champ hertzien, où partant du principe que le champ hertzien est un espace démocratique, eh bien l'État le divise en un tiers pour les mouvements sociaux, un tiers pour l'État et un tiers pour le privé. Et nous, en tant que militants, nous avons droit à un tiers de cet espace. Et c'est pas seulement un tiers sur lequel on va parler, c'est un tiers où nous amenons notre esthétique, notre dramaturgie. Donc du coup, les militants eux-mêmes se forment à la dramaturgie, au cinéma. Enfin, ça, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant que d'envoyer des communiqués à des rédactions qui, de toute façon, enlèvent tout propos politique. Je veux dire, mon expérience de militante me l'a montré et au moment de la flottille ou au moment de l'affaire Ali Arras, où j'ai activement soutenu la famille pendant de nombreuses années. Il y avait des faits importants comme le fait que l'ONU demandait sa libération immédiate, le fait que le juge Balthazar Garçon, qui est un éminent juge en antiterrorisme, remettait en question la manière dont les choses s'étaient passées. Les rédactions de toute la Belgique ont reçu ces communiqués pendant des années, des communiqués que nous écrivions gratuitement depuis notre temps militant. Nous ne sommes pas payés pour le faire. À chaque fois, les phrases étaient enlevées. Tout fait se transformait en conditionnel au nom d'une sainte objectivité. Mais je suis désolée. Ce n'est pas ça un espace démocratique. Mmh. Et donc, je pense que les réseaux sociaux, il ne faut pas se tromper sur le fait que ça ne l'est pas non plus. Si du jour au lendemain, on veut nous les couper, eh bien, on nous les coupe. Hein, la manière dont fonctionne l'algorithme, je pense, nous fragmente également. Donc, je ne suis pas en train de dire à tout le monde, coupez vos réseaux sociaux, parce que de toute façon, pour le moment, ils sont en mer et c'est notre seul lien avec eux pour suivre un petit peu ce qui se passe, mais méfions-nous quand même de l'idée que nous serions déjà arrivés à quelque chose. Nous méritons vraiment mieux. Et de toute façon, nous finançons, je reviens quand même sur cette affaire, nous finançons la télévision publique. Donc à un certain moment, nous avons un droit de regard sur comment s'organise et se fait cette télévision publique. Et pareil pour les réseaux sociaux. Il faut pouvoir penser de nouvelles alternatives de plateformes démocratiques qui fonctionnent avec de nouveaux algorithmes et qui appartiendront véritablement aux citoyens, aux États, et pas à des grands groupes qui financent la guerre et les génocides.
Mmh. Oui, j'ai aussi envie de te demander ce que cette expérience, qui est une expérience humaine extraordinaire quand même, hein, de participer à ça. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça a changé sur ta vie après? Est-ce que tu sais voir ça 15 ans plus tard? Est-ce que tu peux te dire qu'il y a une influence sur les choix que tu as faits, sur des choses que tu as faites que tu n'aurais pas fait?
Déjà, je voudrais reprendre Parce que justement, on est dans des manières d'articuler les récits où il y a des événements, mais en fait, c'est une chaîne d'événements qui constitue ces actions. Moi, pour ma part, si je rejoins la flottille en 2010, c'est parce que précédemment, Kenza Isnasni, qui est bien connue en Belgique parce que ses parents, paix à leur âme, ont été assassinés par un militant du Vlaams Belang et qui a transformé l'immense tragédie et tristesse de sa vie en force politique. J'ai énormément de respect pour Kenza et d'amitié aussi. Kenza s'est engagée d'abord, enfin est allée plusieurs fois en Palestine. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Et puis elle a participé à des convois Viva Palestina. Viva Palestina rassemblait de l'argent pour payer des ambulances. Et donc moi, à l'époque, j'ai soutenu en organisant des concerts avec d'autres artistes pour soutenir l'achat d'une ambulance. Et eux sont partis par la terre. Avec un très grand convoi hein, et on traversait tous ces pays qui vont ensuite être bombardés, la Syrie, enfin voilà, ils ont traversé tout cela et ils sont arrivés en Égypte où ils ont rencontré l'IAH, qui est une organisation islamique turque. Et je fais juste une petite parenthèse, mais je me souviens que déjà à l'époque, ça choquait beaucoup de monde que je rejoigne une association islamique turque. Bon, je veux dire, le mouvement ouvrier chrétien, la JOC, ont le droit aussi d'exister, quoi. Donc, enfin voilà, c'était déjà, bon, on était déjà quand même dans une islamophobie présente. Qui n'a été qu'en s'empirant et qui est pour moi d'ailleurs un des fondements du génocide en cours, que la déshumanisation des musulmans auxquels ont participé nos politiques et nos médias depuis au moins les 20 dernières années. Je trouve que c'est important de le rappeler. Et donc c'est en suivant Kenza qu'ensuite elle m'a proposé de rejoindre la flottille. La flottille, moi j'ai passé 10 jours à Istanbul avec eux et ça reste des moments... D'une immense humanité et beauté, parce que l'internationalisme, là, il s'incarne. Je me souviens de camarades qui arrivaient d'Espagne, des discussions autour d'un thé avec des Turcs, des Espagnols, où ça refaisait l'histoire, où ça discutait de la trahison de Staline, où justement, nous étions tous des hérités dépossédés d'une histoire de l'internationalisme. Ouais. Et depuis nos lambeaux, chacun depuis nos pays... Nous revoyons cette histoire et l'histoire de ces trahisons et nous tentions de reconstituer. Parce que je pense que c'est important de se dire que la flottille, justement, c'est ça. C'est des gens... Nous n'avons plus l'international communiste, depuis au moins 1900. Enfin bon, après, ça dépend à quel bord on appartient. Je ne vais pas rentrer là-dedans.
Oui.
Voilà. Mais je veux dire, nous n'avons plus cette structuration qui nous permet d'organiser la solidarité de manière politique. Nous sommes des citoyens dépossédés de ce mode d'organisation. Cependant, nous devons nous reconstituer. Et là, pour le moment, ça se reconstitue par l'action civile. Je pense que la flottille... Alors, je suis pas avec eux pour le moment, mais en tout cas, de mon expérience en 2010, c'était un témoignage vibrant d'humanité et de tentative de reconstitution politique d'une internationale en acte. Alors, qu'est-ce que ça change ? Je sais pas. Je pense que de toute façon, quand on rentre dans des actions comme ça... Moi, j'entendais hier justement l'interview d'Adèle Haenel qui rejoint là en Tunisie et qui disait mais en fait, oui bien sûr elle a peur et elle a raison d'avoir peur, mais il y a des moments dans la vie où c'est plus insupportable de ne rien faire que de faire. Et moi à ce moment-là, quand j'ai rejoint, j'étais en effet dans cet état d'esprit-là, parce qu'en fait c'est en effet renoncer à notre humanité que d'accepter de continuer à assister à un génocide en direct. Et voilà, on peut rien faire. Alors si on peut rien faire, on n'a qu'à se suicider et faire harakiri une bonne fois pour toutes collectivement. Mais est-ce que la vie mérite d'être vécue si nous restons passifs, quoi. Donc voilà, je sais pas en fait ce que ça a changé. En tout cas, ça a fait tomber beaucoup de voiles sur ma naïveté de jeune militante qui pensait qu'il suffisait de dire pour être entendue.
Ouais.
Non, il faut récupérer les médias. Il faut. En fait, je pense que j'ai commencé à étudier le marxisme juste après la flottille.
Ça mène à tout. Voilà.
Mais bon, c'est mon parcours. Hein.
Ça mène à tout. Une toute dernière question pour terminer. C'est une question que j'ai posée, je pense, à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à cette interview. C'est est-ce que tu as quelques mots à dire aux personnes qui sont sur la flottille pour le moment et qui partiront bientôt de Tunis dans quelques jours?
Ben, je les remercie. Je les remercie pour leur courage, leur humanité. Je souhaite qu'ils puissent naviguer sains et saufs. Je leur souhaite la paix. Et moi et d'autres, nous nous engageons à pouvoir faire tout ce que nous pouvons ici en termes de mobilisation afin de leur garantir d'être sains et saufs. Que Dieu veille sur eux et puis merci de s'exposer à de tels risques pour ne pas renoncer à notre humanité commune. Ouais.
Merci Julie, merci beaucoup.
Merci.
Voilà, donc comme vous avez compris, entre-temps, c'était l'interview avec Julie. On est presque à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'il y aura demain? De nouveau des participants, certainement, qui seront très probablement à Tunis, ou qui seront déjà partis, on ne sait pas encore. Pour le reste, il y aura un entretien, le troisième entretien, le dernier, avec Michel Stachewski, l'auteur bien connu de Palestiniens, Israéliens, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés, entrevoir demain. Et il va parler notamment de la dernière partie de son livre, Entrevoir demain, puisque aujourd'hui c'est un peu difficile à dire quand on voit ce qu'Israël fait, mais un jour la guerre doit finir et la question c'est qu'est-ce qu'on fait par après. Voilà, donc on va discuter de ça avec Michel Stachewski demain. Donc merci beaucoup pour votre écoute.
Merci et à demain.
À demain.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. Et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.